Et tout de suite, on retrouve donc le rendez-vous avec vous, Laurent Goumard, bonsoir.
Cumel, saké, toqué, alcool de goyave.
Une larme de saké.
Non ! Je vais te faire l'amour, petite fille.
I wanna be a producer with a hit show on Broadway.
Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu, et lécher le sel de ta peau.
Eh bien, ce sera magnifique ce soir dans le rendez-vous. Sur France Culture, il sera question de producteurs, de diffuseurs du film français, de l'Algérie, de comédie, avec Alexandra de Broca à l'occasion de la rétrospective Philippe de Broca à la Cinémathèque française à Paris. Portrait d'un cinéaste de comédie pour exorciser le traumatisme de ses années de reporter d'images en Algérie. Benoît Lagan.
Retour sur les tribulations d'un homme pressé, ancien escrimeur de haut niveau, qui n'aura eu de cesse de filmer des épicuriens en mouvement dans un grand cinéma fantaisiste et populaire.
19h30, la chronique cinéma du mercredi de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme, Jean-Marc.
Jean-Pierre Melville.
Tout son programme, tout son film.
4 films réédités.
19h35, plateau professionnel de la profession avec Sophie Dagbert qui signe Nabab, premier roman sur le milieu des décideurs du cinéma français pour cette ex-rédactrice en chef de l'hebdomadaire Le Film Français. Benoît.
Retour sur une géopolitique et stratégique du cinéma français ou comment réécrire par le roman le scénario de la saison 2010-2011.
Mais d'abord c'est l'actualité culturelle, bien sûr le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre d'abord sur le son du jour.
Alors les amateurs du chanteur Prince auront certainement reconnu l'un de ses tubes les plus discrets américains, l'une des rares chansons engagées du chanteur de Kiss et de Purple Rain, une chanson qui était parue en 80 et qui réclamait la paix et dénonçait la surenchère nucléaire entre les USA et la Russie. Prince, qui plus de 20 ans plus tard, s'engage à nouveau. Il annonce qu'il va donner un grand concert pour la paix dans la ville de Baltimore, dimanche, jour de la fête des mères. Après plusieurs jours de très fortes tensions et d'émeutes dans cette ville, déclenchées par la mort d'un jeune afro-américain vraisemblablement tué par la police. Dans un esprit d'apaisement, l'événement est destiné à être un catalyseur pour une pause et une réflexion après le débordement de violence qui a agité la ville, dit-il. Le chanteur invite le public à s'habiller en gris, et qui se dit Grey en anglais, en hommage justement à la victime, Freddie Gray. Il indique qu'il a aussi écrit une chanson intitulée justement Baltimore, en réaction aux événements et qu'il l'interprétera sur scène. Et tout de suite, on passe au dossier du jour et l'on part en Bretagne, dans la petite ville de Plumelio, dans le Morbihan, où le nouveau maire de la ville a fait détruire totalement par surprise le bâtiment de la mairie-poste de la ville, un bâtiment à très fort intérêt patrimonial. Quand il est arrivé à la tête de la commune lors des dernières municipales, Benoît Quairot a décidé de porter un projet d'urbanisme totalement nouveau pour changer le centre-ville, qui consistait notamment à détruire cette fameuse mairie-poste, l'un des bâtiments les plus importants de la ville qui date des années 50. Une décision qui a aussitôt suscité la colère de plusieurs défenseurs du patrimoine et notamment de l'association Patrimoine du Bieuzy, dont Anne-Marie Robic est la présidente.
C'est un bâtiment qui est assez surprenant, c'est-à-dire que il est inspiré de ce qu'on appelle le style Seyss-Breur. C'est un mouvement culturel breton et donc parmi lesquels il y avait des architectes et donc c'est l'art déco breton, si vous voulez. C'est une construction intéressante dans la mesure où elle reprend des formes arrondies, elle reprend des symboles celtiques. On aime ou on n'aime pas, mais cette construction, elle avait du caractère et elle est en cours de labellisation puisque donc la DRAC a donné un avis favorable et on attend le label patrimoine du XXe siècle qui devrait être imminent, qui est une reconnaissance, qui n'est pas une protection et il ne faut pas se leurrer. Hein.
Oui, puisque les défenseurs du bâtiment étaient soutenus dans leur démarche par la DRAC pour le labelliser et par le conservateur des monuments historiques de Rennes qui allait jusqu'à Plumelio pour tenter de convaincre le maire de ne pas détruire ce bâtiment, mais évidemment les défenseurs du patrimoine restent minoritaires au conseil municipal et finalement le projet d'urbanisme du nouveau maire est acté. Mercredi dernier, lors du conseil municipal, il annonce qu'il a trouvé une entreprise pour mener à bien la démolition, tout en restant extrêmement évasif sur la date de cette démolition. Il indique vaguement qu'elle aura lieu en 2015, mais dès le lendemain, 7h, la mairie est détruite. Les tracteurs sont déjà là. Une façon de faire qui a énormément choqué les habitants, que le maire, interviewé par Ouest France, a totalement revendiqué.
On a posé la question sur l'année de la démolition. Est-ce que ça allait être en 2015, 2016? J'aurais dit que c'était en 2015. et que ça allait, c'est quelque chose qui n'allait pas traîner, effectivement. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas donné la date en tant que telle, parce que je pense qu'il n'était pas souhaitable que le lendemain, on ait une foule de curieux sur un chantier qui est quand même quelque part un petit peu dangereux. Mais les gens sont au courant sur le fond. Le fait qu'on leur démolisse le bâtiment, c'est quelque chose qui est acté, décidé, et qui de toute façon allait se faire quoi qu'il arrive. Ça, tout le monde était au courant. Maintenant, sur le choix de la date en tant que telle, pour moi, j'estime que c'est un élément de détail qui reste un élément de détail.
Voilà, alors le Conseil culturel de Bretagne, l'Union des villes d'art et d'histoire de Bretagne et même le sous-préfet ont dénoncé cette destruction en catimini, alors que plusieurs recours justement étaient en cours. Ils dénoncent évidemment un passage en force, mais pour Anne-Marie Robic, tout n'est pas perdu, puisque tout peut changer si les défenseurs de la mairie, eh bien, gagnent leur recours.
On a vu un cas semblable dans les Côtes d'Armor, c'était le donjon de Quatmin à Trémézin. Le mandataire et l'entreprise qui a fait la démolition ont été condamnés à des amendes et à la reconstruction à l'identique. C'est quand même arrivé. Et nous avons prévenu l'entreprise tout de suite. Nous leur avons envoyé cette jurisprudence, mais rien ne les a arrêtés.
Alors, l'issue des différents recours entamés contre les décisions du conseil municipal seront connues dans les semaines à venir. Et tout de suite, on passe au bref et l'on ouvre avec le réalisateur américain Francis Ford Coppola, 76 ans, qui a reçu aujourd'hui le prix espagnol Princesse des Asturies des Arts, l'un des plus prestigieux d'Espagne pour ses films devenus, je cite, des icônes collectives et universelles. Il a donc reçu un prix doté de 50 000 euros et une fameuse statuette imaginée par Juan Miró. Les prix Princes des Asturies vont continuer à être donnés dans des domaines très divers, art, coopération internationale, sciences sociales, etc. Marie-Ève Malouine a été nommée à la direction de LCP Assemblée Nationale. L'actuel chef du service politique de France Info a donc été nommé à la tête de LCP pour 3 ans par le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, qu'il a donc préféré au président sortant, Gérard Leclerc, qui était candidat à sa propre succession. Sa nomination par le bureau de l'Assemblée Nationale place ainsi pour la première fois une femme à la présidence de cette chaîne. Nouveau record avec l'impressionnisme chez Sotheby's qui confirme l'engouement des collectionneurs pour cette période. La célèbre maison a adjugé un tableau de Van Gogh pour 66 millions de dollars et un Orfeo de Monet pour 54, ce qui fait que la vente se classe au deuxième rang des ventes les plus importantes impressionnistes et modernes. Et la dernière, puisqu'il en faut toujours une, c'est une histoire d'un film qui a réussi à dédommager une famille spoliée pendant la Seconde Guerre mondiale, ou comment finalement George Clooney est finalement vraiment un héros, car oui, la famille d'un officier américain qui avait gagné 3 tableaux lors d'une partie de poker disputée pendant la Seconde Guerre mondiale a restitué hier des œuvres volées, ces 3 œuvres volées, à leur propriétaire légitime par l'intermédiaire de la Monument Man Foundation. Alors cette fondation, elle a repris le nom d'un groupe constitué par des soldats américains dont la mission, vous le savez peut-être, était de récupérer les milliers d'œuvres d'art pillées par les nazis après le conflit mondial. Ces Monuments Men, ils ont été rendus célèbres par un film de George Clooney en 2014. Alors le fameux major en question dont on parle, lui, n'avait rien à voir avec ces Monuments Men puisqu'il avait gagné dans des circonstances assez louches trois tableaux vraisemblablement spoliés dans une partie de poker contre des soldats allemands. Sa famille s'est toujours un peu senti mal avec ces 3 chefs-d'œuvre et en août dernier, plusieurs années après sa mort, son beau-fils, James Hetherington, découvre le film de George Clooney et contacte cette fondation qui a finalement remis à l'héritière du marchand juif spolié à qui elle appartenait les 3 tableaux avec beaucoup de bonheur.
Le rendez-vous.
Non, monsieur Choiseul n'est pas là, mademoiselle. J'ai de la part de qui ?
Je suis une amie d'Edouard.
Moi, je suis sa femme.
Il avait fallu que quelqu'un l'ouvre, cette fenêtre.
Serait-ce l'assassin, commissaire ?
Si tu ne viens pas à la Gardère ! La Gardère ira à toi !
Touchez ma bosse, monseigneur.
Plateau magnifique avec vous, Alexandra de Broca, écrivaine, scénariste, productrice, ex-responsable de la fiction à France 2 dans les années 90. On vous reçoit ce soir à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui même de la rétrospective consacrée à votre mari, le cinéaste Philippe de Broca. C'était à la Cinémathèque française à Paris. On vient d'ouvrir sur un collage d'extraits de 3 des 4 films qui sortent en DVD chez TF1 Vidéo. Tendre Poulet, 78, Le Cavaleur, 79, Le Bossu, 97. Manque le 3e film du coffret, On a volé la cuisse de Jupiter. Quel réalisateur, Philippe de Broca, était-il au début des années 80 ?
Plutôt un homme heureux.
Gros succès populaire ?
Oui. Il avait sûrement envie d'autre chose, Mais en même temps, c'était impossible de ne pas accepter de continuer ces films avec cette patte et cette touche qu'il avait et que les gens aimaient beaucoup.
Envie d'autre chose ? Quoi, par exemple ?
Je crois qu'il a toujours eu envie de films lyriques, comme il disait. Quand il était jeune, il admirait beaucoup Orson Welles. Et puis, envie de films historiques, ça c'est sûr, il en a fait. Je crois que Chouan a été quelque chose de très important pour lui. Et la version longue de Chouan, qui sera présentée à la Cinémathèque, est un film qui lui tenait beaucoup à cœur. Et puis, dans les années 80, mais c'est plus l'homme d'il y a 20 ans qui court toute la journée. Voilà, c'est aussi le moment où on se pose des questions sur sa vie, sur l'évolution de sa vie. Et comme il disait, sur le moment de la mort, c'est pas la mort qui fait peur, c'est de choisir le bon moment de sa mort.
Vous, quel est votre premier souvenir de son cinéma ? Ça passe par quel film ?
Alors moi, j'ai connu Philippe en 90. Donc, beaucoup plus tardivement. J'ai pas du tout été élevée dans cette culture de ce cinéma-là, pas du tout. Mais en revanche, je me souviens d'avoir vu Chouan et d'avoir eu envie, pour la première fois de ma vie, d'écrire à un cinéaste pour, non pas l'engueuler, mais presque, parce que je trouvais que sa description de la guerre de Vendée était terriblement caricaturale. Ce qui m'a permis, le jour où nous nous sommes rencontrés, de démarrer par une vaste conversation.
Oui, parce que je signale, je rappelle aussi pour certains qui connaissent votre plume, que vous signez des romans historiques, donc vous aviez un regard sur cette production-là.
Oui, je suis une passionnée du XVIIIe siècle, donc oui.
Donc là, il ne pouvait pas vous échapper à ce niveau-là. Quand vous dites que vous aviez été élevé par rapport à un autre cinéma, quel serait ce cinéma, Alexandra de Broca ?
En fait, je viens de la télévision, ouais. Donc j'ai été complètement élevée par la télévision, puisque j'avais un papa producteur de télévision et de fiction de télévision, donc j'ai été élevée par Thierry Lafronde et des films de ce genre. Et donc c'est vrai que mes parents n'emmenaient pas beaucoup au cinéma.
Sophie Dagbert, vous, le premier souvenir de cinéma de Philippe de Broca, ou ce qui vous a marqué dans son cinéma, ce serait ?
Oui, bah c'est le cinéma, c'est très fantasque, très sautillant, Capé d'épée, tout ça, Belmondo, L'homme de Rio, tout ça. Oui, c'est un cinéma amusant, divertissant, assez riche.
Benoît.
Alors la Cinémathèque française à Paris rend donc hommage à Philippe de Broca à travers une importante rétrospective, 20 films je crois. Que représentait la Cinémathèque pour lui ?
Comment il s'était formé au cinéma ?
Il s'est formé par l'école de Vaugirard. Et donc, comme chef opérateur. Alors, la Cinémathèque, pour être honnête, c'est un peu une souffrance pour Philippe. Là, la Cinémathèque rend hommage à un metteur en scène dit de comédie. C'est la deuxième fois. La première fois, ça a été l'ami Rapneau. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommages à des metteurs en scène de comédie. Je pense à Gérard Houry, par exemple. Donc, je crois que Philippe souffrait un petit peu de ce décalage entre le regard tellement bienveillant du public et le regard très critique des critiques, on va dire, ou d'un certain milieu parisien.
Quand on pense à Philippe de Broca, on pense à ce que vous disiez, à Sophie Dagbert, aux grands films populaires des comédies, des films d'aventure, Le Magnifique, L'Homme de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il était un contemporain de la Nouvelle Vague, soutenu par François Truffaut, produit par Claude Chabrol. Comment il parlait et comment il regardait cette période ? Est-ce qu'il vous en a parlé, Alexandra de Broca ?
Ce qu'il m'a dit, en tout cas ce dont je me souviens, c'est qu'il... Il avait une immense tendresse pour Chabrol. Ils s'entendaient extrêmement bien jusqu'à la fin de leur vie. Mais de la Nouvelle Vague, il reprochait à la Nouvelle Vague d'avoir abîmé le métier de scénariste. Et il n'était pas d'accord avec ça, en pensant qu'il fallait qu'un film soit comme une pièce de théâtre et qu'il soit construit et avec un axe dramatique. Il fallait que le spectateur, jusqu'au bout, ait une raison de rester assis dans leur fauteuil. Et que cette idée qu'on n'avait plus besoin d'un auteur parce que le metteur en scène allait tout faire, c'est quelque chose qui le dérangeait profondément. Et Philippe a coécrit tous ses films, mais il a toujours travaillé avec des scénaristes et pas les moindres. Hein.
À propos des scénaristes, oui, Benoît. Oui.
Philippe de Broca a coécrit avec Daniel Boulanger, essentiellement, Cartouche, les tribulations d'un chinois en Chine, Chouan, Michel Audiard, Tendre Poulet, le Cavaleur, ou encore Jean Cosmos pour le Bossy. Comment travaillait-il avec eux précisément?
Oui, il y a eu Kovlart aussi, il y a eu Alexandre Jardin avec qui il a travaillé aussi à la fin de sa vie, qu'il aimait beaucoup. Mais Philippe travaillait vite, très vite. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il avait une très jolie plume, il écrivait vraiment très bien.
Quand vous parlez du style de Broca, vous employez souvent la formule « petite musique ».
Oui.
On l'a dit aussi pour François Sagan, sa petite musique à lui, comment vous la définiriez? Elle passait par quoi?
Un peu comme Mozart, c'est-à-dire que par moments c'est très gai, et puis deux secondes après ça peut être extrêmement mélancolique, extrêmement nostalgique. Dans le Cavaleur, c'est vraiment le film où Philippe se définit lui-même, et en fait il ne court pas après les femmes, il court après la vie, il court après forcément donc la mort. C'est quelqu'un qui, en apparence, était un homme qui avait des traits d'humour et qui était effectivement très amusant, mais qui en même temps était profondément désabusé du monde dans lequel il vivait.
Vous pensez que le monde ne correspondait pas à la vision qu'il pouvait avoir? Par exemple, quand il prend le Bossu, quand il fait le Bossu en 97, à l'époque, d'abord c'est un film de producteur, hein, c'est une idée de producteur, il déclarait à cette époque ne plus avoir envie de faire de la comédie pure parce qu'il sentait bien qu'il y avait un décalage entre la société et son approche à lui de la comédie. À quel niveau vous voyez ce décalage?
Ces comédies sont tout de même passées à une époque où la vie semblait heureuse. Je me souviens d'avoir vu, hein, il n'y a pas très longtemps, un film avec Jean Rochefort. Et en sortant de ce film, il m'a dit « Tu te rends compte, c'était formidable, on se garait n'importe où. Il n'y avait pas de digicode, il n'y avait pas de sécurité. Dieu que la vie était facile et agréable. » Et c'est vrai. Donc aujourd'hui, quand j'ai traîné Philippe voir le film de Cyril Collard, je ne sais plus comment il s'appelle.
Les Nuits Fauves.
Je l'ai mis dans un état... mais de choc, il était mais tellement choqué, au sens il était tellement pudique, c'était impossible pour lui, c'était pas possible. Il m'a dit mais si c'est ça le cinéma aujourd'hui, je dois me retirer, je ne dois pas en faire. Donc effectivement le Bossu a été pour lui un cadeau du ciel.
En 97, oui.
Un cadeau du ciel, absolument.
Ça lui a permis de reprendre véritablement son cinéma en main.
Son cinéma en main, et de montrer qu'il avait, à mon avis, autant de talent que dans Cartouche.
Benoît.
On dit de Philippe de Broca qu'il était un homme pressé, et la typologie de l'acteur à la de Broca, c'est sautillant, toujours en mouvement, des héros épicuriens jamais en place, sans domicile fixe apparent et qui parcourent le monde. Quel portrait, finalement, de lui-même il faisait en mettant en scène de ce type de personnage, Alexandra de Broca?
Oui, homme pressé, oui, c'est un homme avec qui on ne s'ennuyait jamais, ça c'est sûr. Mais homme pressé, homme distrait, qui perdait toujours tout, les clés, qui ne retrouvait jamais sa voiture dans un parking. Enfin, donc ça, c'est la même chose dans ses films que dans sa vie, oui.
Qu'est-ce que son cinéma doit, son cinéma plutôt fantaisiste, à une période difficile, hein, qu'on sait dans sa vie? C'est son service militaire quand il est reporter d'images en Algérie. Qu'est-ce que son cinéma doit à cette période-là, en fait?
Quand je l'ai rencontré, je lui ai assez rapidement posé la question suivante, c'est-à-dire comment est-ce qu'un homme aussi intelligent, intellectuel, extrêmement cultivé, mais vraiment extrêmement cultivé, peut faire des films aussi légers? Et il m'a répondu que, après ce qu'il avait vu en Algérie, des deux côtés, hein, puisque ça c'était très clair pour lui, l'être humain était tellement horrible que seule la dérision, seul le sourire permettrait à l'homme d'accepter sa condition. Et que finalement, c'était ça qu'il allait faire. C'était de faire sourire les gens pour leur faire accepter cette vie-là. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans cette détestation de la violence. Vous ne voyez jamais de violence dans ces films. Les méchants ne sont pas vraiment des méchants. Ou s'ils sont méchants, ils sont tellement ridicules que les Karpov ou autres, on n'en a pas vraiment peur. Et puis, ben, c'est évidemment l'importance du roi de cœur, c'est-à-dire où là, il a voulu, et il s'est trompé, montrer la guerre et l'horreur de la guerre par le biais de la comédie. Et les Français n'en ont pas voulu.
Vous-même, vous comprenez justement que les Français n'en aient pas voulu à l'époque?
Ben, je me pose souvent la question si on peut rire de tout. Et je me dis qu'en 1966, encore plus peut-être, effectivement.
Benoît.
Du coup, la violence, elle passait par la cape et l'épée, donc par l'humour, par le jeu. Quel chorégraphe des scènes était-il? Parce qu'il était escrimeur, par ailleurs, Philippe de Broca.
Oui, alors la violence, elle est aussi, mais dans l'honneur, hein, parce que ça, c'est très important, le code de l'honneur dans l'escrime. Ce qui était amusant, c'est qu'il avait pu travailler avec les deux, je crois, il a travaillé avec le maître d'armes, je crois qu'il s'appelait Carliez, il me semble, et avec son fils, après, pour le bossu. Donc ça, c'était assez... Ah, mais ça, il savait très très bien le faire, hein, je veux dire, il n'avait aucun problème de... pour mettre en scène ces images-là.
Il savait que vous aviez un regard plutôt critique sur son cinéma ?
Oui, oui, oui. Mais ça ne le dérangeait pas du tout. Ça ne l'empêchait pas d'avoir un regard aussi très critique sur certaines choses que je faisais à France 2. Ou... Non, il n'y avait pas de problème là-dessus.
Quel directeur d'acteur était-il ?
Je ne suis pas sûre qu'il était un grand directeur d'acteur comme certains acteurs aimeraient. C'est-à-dire que pour lui, la première prise était la bonne. Et je sais que sur Le Bossu, il s'est souvent un peu fâché avec Marie Gillin, qui voulait refaire et refaire et refaire. Et d'ailleurs, Philippe lui a dit un jour devant moi, « De toute manière, si un jour on retourne un film ensemble, tu n'auras pas deux prises, mais une. »
Oui.
Je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup aimé.
C'est très, très, très rare dans un dispositif aussi Jean-Marc lourd, Lain. Sur un film aussi cher, de ne faire qu'une seule prise. Normalement, c'est des cinéastes comme Philippe Garrel quoi, qui ne font qu'une prise. C'est quand le film est très peu cher, c'est un choix fort dans une telle économie. De prendre le risque de la prise unique.
Alors, effectivement, il n'y avait pas une prise unique, mais presque. Il faut dire qu'il était tout de même d'abord entouré de techniciens qui étaient très en confiance, qui savaient très bien comment ça se passait. Et donc, c'était sa manière de faire. Il a toujours été comme ça. Tous les comédiens ont toujours dit qu'il n'avait même pas fini, qu'il était déjà en train de commencer à préparer l'autre scène. Mais Mouchkine, qui était ce merveilleux producteur, m'a dit un jour cette phrase formidable. Il m'a dit « Le problème de ton mari, c'est quand on lui donne trop d'argent, il bâcle. » Donc il fallait en fait qu'il se sente lui-même serré, pressé et avec peu de moyens pour donner le meilleur de lui-même.
Alors Le Bossu était un choix de producteur et ce producteur, donc Patrick Godot, fait appel à Jean Cosmos pour écrire le scénario. Or, Jean Cosmos, Philippe de Broca, c'est presque la thèse et l'antithèse. Comment se sont-ils entendus ? Comment ont-ils travaillé ?
Et d'abord, qu'est-ce qui les opposait ?
Je suis pas sûre que c'était vraiment d'opposition. J'en ai pas le souvenir.
Patrick Godot en parle.
Oui, je sais, oui. Mais il y a Jérôme Tonnerre aussi qui est venu les rejoindre. Mais Philippe avait une immense admiration, de toute manière, pour Jean Cosmos. Et donc, il faisait extrêmement attention. Ce qui est compliqué, tout de même, dans Le Bossu, c'est que c'est malgré tout une forme d'inceste, cette histoire. On a beau dire ce qu'on veut, il élève cette jeune fille, il tombe amoureux après. Donc ça, c'est quelque chose qui gênait beaucoup Philippe. Et puis, c'est une histoire très longue aussi. Donc là aussi, il faut réduire. Non, mais ça s'est dans l'ensemble extrêmement bien passé.
À ce propos, dans les bonus du DVD Le Bossu, vous expliquez que Philippe de Broca n'aimait pas la fin du film. Justement, Le baiser entre Lagardère, Daniel Auteuil, et Aurore de Nevers, Marie Gillin. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas dans ce final ? Et il n'avait pas le final cut ? Il ne pouvait pas changer ?
Non, il n'aimait pas cette scène parce qu'il trouvait qu'il l'avait ratée. Il trouvait qu'il l'avait mal filmée. Mais de toute manière, Philippe détestait tourner des scènes d'amour. Donc, le sachant, je pense qu'il aurait pu...
Un peu comme Truffaut, quoi.
Oui. Il était extrêmement mal à l'aise avec ça.
Il était fils d'industriel. Comment est-ce que sa vocation a été perçue dans son milieu ?
Très bien. Je crois que Philippe a eu une enfance très, très heureuse. Et ses parents l'ont aidé. Il y avait un grand-père qui était peintre. C'était des gens tout de même, pas fantasques, mais un petit peu tout de même. Ce n'était pas du tout des gens conventionnels. Le père de Philippe a épousé sa mère et ensuite la sœur de sa mère qui vivait avec eux. C'était pas des catholiques bien pensants et conventionnels, pas du tout.
Le rendez-vous, la chronique.
Alexandra de Broca et Sophie Dagbert, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, avec à son programme aujourd'hui 4 films de...
Jean-Pierre Melville. 4 films qui ressortent en salle en copie restaurée. Il y en a un qui ressort aujourd'hui, c'est L'Armée des Ombres, qui est un des rares films de Jean-Pierre Melville qui ne relève pas du genre du cinéma policier, puisque c'est un film historique qui relate le quotidien d'un réseau de résistance dans le Paris occupé de 1943, qui est un des très grands films de l'histoire du cinéma français. Et puis il y a 3 films policiers qui sortent la semaine prochaine. Le Doulos, 1962, Jean-Paul Belmondo. Le Cercle Rouge, Bourville, Yves Montand, Alain Delon, 1970. Et le dernier film de Melville, Un flic avec Alain Delon et Catherine Deneuve. Alors d'abord un mot sur l'Armée des Ombres, qui est donc un film de 69. C'est une époque où en fait la question de la résistance en France n'a pas donné tellement lieu à des films de fiction. Il existe un grand film sur la résistance, mais qui a été réalisé dans l'après-coup de la libération, qui est La bataille du rail de René Clément, 1946, et qui est un film qui traite la question de la résistance sur un mode totalement lyrique, qui est dans une sorte de gloriole patriotique, qui c'est vraiment un chant sur l'héroïsme et la grandeur de ces hommes qui ont contribué à libérer la France. Et près de 20 ans plus tard, Melville fait absolument l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait un film où l'héroïsme est totalement sinistre et enténébré. Ce qu'il montre, c'est toujours des héros, des gens qui accomplissent des actes extrêmement courageux et extrêmement héroïques, mais sur un mode totalement spectral, fantomatique, et où la frontière entre le bien et le mal, entre la collaboration et la résistance, entre l'ombre et la lumière est totalement poreuse, et tout à coup, quelqu'un peut basculer de la résistance à la collaboration. Notamment, il y a des scènes de torture qui sont parmi les plus fortes qu'il n'ait jamais eu dans le cinéma français. Et le sujet profond de Melville, c'est l'ambiguïté. C'est à la fois l'ambiguïté morale, qui est au cœur de l'Armée des Ombres, au cœur aussi de ces films policiers, parce qu'il y a sans arrêt aussi une porosité entre le monde des flics et le monde des gangsters. L'ambiguïté, c'est aussi la forme du cinéma de Melville, où tout est toujours crypté, énigmatique, où les faits les plus quotidiens, les gestes du quotidien ressemblent à des espèces de cérémoniaux extrêmement mystérieux, dont on est toujours à l'extérieur. C'est-à-dire que sur l'écran miroitent des signes dont on ne comprend pas très bien la signification. Mais l'ambiguïté, elle est aussi sexuelle. Parce que le cinéma de Melville est peut-être un des plus homo-érotiques du cinéma français, alors même que l'homosexualité y est totalement refoulée. C'est un univers qui est totalement masculin, et non seulement c'est un univers masculin parce que les milieux qu'il filme sont des univers très masculins, comme la pègre, la police dans les années 60, mais aussi parce que les récits se nouent sur la question de l'éjection de la figure féminine. C'est par exemple l'Armée des Ombres. Il a filmé très peu de stars féminines alors qu'il a filmé toutes les stars masculines. Il y en a deux. Il y a Simone Signoret dans l'Armée des Ombres. Et le cœur du film, c'est que ce personnage-là, qui est peut-être le plus beau du film, va se sacrifier pour les autres. Elle va sauver la communauté des hommes, mais par un geste de sacrifice. Donc elle est éjectée. Et dans Un flic, son dernier film, il filme une autre star qui est Catherine Deneuve. Et il la filme, elle n'a jamais été autant iconisée, fétichisée, et Dieu sait qu'elle a été au cinéma, mais beaucoup plus que dans Belle de jour, elle est vraiment filmée comme une image, une pure image, un fétiche. Elle a quasiment pas de ligne de texte. Elle apparaît, elle est une statue. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il double cette figure d'icône féminine d'un personnage de travesti qui se prostitue et qui est l'indique d'Alain Delon et qui est coiffé et habillé avec des manteaux en fourrure comme Catherine Deneuve. Et donc il y a à la fois la star et son double travesti. Et ce qui est sidérant dans le film, c'est que dans le cinéma très très froid et très raréfié en affect de Melville, tout à coup il y a un personnage de pure victime totalement bouleversant qui est ce travesti. Parce que tout à coup, avec ce travesti, il trouve une sorte de trait d'union entre ce qui avait toujours pour lui été deux identités séparées, le monde des femmes qu'il a totalement exclu de son cinéma et le monde des hommes dans lequel il est de plein pied. Et tout à coup, il y a un interstice, il y a une brèche par lequel va s'engouffrer une intensité émotionnelle que son cinéma jusque-là n'avait jamais libérée.
Un commentaire sur cette vision, Alexandra de Broca? Hein, je vous ai vu
sidéré. J'avais jamais pensé à le mot sexualité chez Melville dans ses films. Bravo.
Sophie Dagbert ?
Bah, oui, grand cinéphile. Hein. Respect. Ah, c'est oui. Tout.
Très bien, on continue.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau professionnel de la profession avec vous, Sophie Dagbert, journaliste, longtemps rédactrice en chef du Film Français. C'est le journal professionnel du cinéma qui célébrait en décembre dernier ses 70 ans. Vous publiez votre premier roman, Nabab, aux éditions Robert Laffont. Le roman raconte les coulisses d'un monde que vous connaissez bien, celui du cinéma, à travers un personnage de fiction, c'est Zoé Barquero, une jeune réalisatrice qui cherche à réaliser son premier film après des études et une expérience américaine et qui va entrer dans le monde du cinéma français peuplé de nababs. Et c'est l'occasion pour vous de rejouer par la fiction les guerres de producteurs entre Thomas Langman, Vincent Maraval, les frères et les filles Seydoux, le patriarche Guy Verrakia, et au milieu de toute cette guerre de tranchées, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. À ce sujet, on est à quelques jours de la nouvelle édition. Quel regard vous portez sur la sélection officielle, vous qui en montrez dans le roman les stratégies de programmation? J'imagine que vous arrivez à décrypter un petit peu ce qui est en jeu aujourd'hui.
Oui, j'ai regardé ça avec avec beaucoup d'intérêt évidemment. J'ai l'impression qu'il y a, Thierry Frémaux a fait des efforts que sans doute beaucoup de gens lui demandaient, en laissant de côté les abonnés, disons, du festival, en ouvrant plus aux femmes. Aussi, on reprochait souvent à la sélection d'être quand même la parité. Était loin de la parité. Après, mais de conserver quand même des grands noms, des cinéastes aussi quand même un peu habitués. Je sais pas, Moretti. Enfin, il y en a pas mal. Mais on sent qu'il s'est un peu forcé quand même à répondre. Alors, je sais pas si j'ai raison ou tort. Hein, je
c'est le
pas
regard demandé, d'une
mais, professionnelle. Mais hein. Je pense qu'il a dû se forcer un peu. Il a été à l'écoute ces derniers temps quand même des critiques qu'on avait pu faire sur ses sélections, de ses intentions, etc. Donc je pense qu'il a
qu'est-ce
un peu
qu'on lui reprochait auparavant en fait.
Vous savez, on a toujours reproché tout et n'importe quoi aux sélectionneurs de Cannes. Hein, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. On reproche avant même qu'il ait fait sa sélection de prendre les grands noms abonnés, toujours les mêmes qui reviennent année après année, forcément les Dardenne, les machins. Là. Et puis en même temps, s'il n'y a pas le réalisateur en question, on dit mais
s'il n'y a pas des Pléchins voilà, cette année, on dit mais c'est pas possible, il est passé à côté
des Pléchins.
Il n'a pas
pris des Pléchins. Voilà. C'est inadmissible. Voilà. Donc bon.
Zoé, votre personnage est totalement fictif, mais les personnages qu'elle croise sont bien réels. Hein. Thomas Langman, Jérôme Sédoux, que vous avez croisé vous-même en travaillant au film français. Pourquoi avoir opté pour la fiction, donc pour un premier roman, alors même que vous auriez pu signer un essai, par exemple, sur les producteurs?
Je me suis posé la question, à vrai dire, hein, et je suis arrivée à vouloir faire un roman parce qu'il me semble que la fiction, c'est le plus bel habit de la réalité. C'est grâce à cette fiction, c'est grâce à cette intruse qui est fictive, effectivement, que je suis arrivée à être au plus près de ces gens, être le plus précise, je dirais, et vraiment le voilà. Parce que sinon, c'était une galerie de portraits avec un petit décalage de journaliste dont j'ai eu du mal à me séparer pendant le début de l'écriture de ce livre. J'avais toujours ce pas de côté du journaliste. J'arrivais pas à rentrer et à les côtoyer en chair en os, en quelque sorte.
À propos de producteurs, est-ce que vous avez lu le roman de Christophe Donner qui était paru en septembre dernier? Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive. C'était sur Rassam, oui. Berry et Piala.
Oui,
Vous l'avez lu,
je l'ai lu.
Parce que c'est intéressant de voir qu'à quelques mois, on pourrait dire, d'existence, il y a quand même deux romans qui paraissent sur la figure du producteur.
C'est vrai. La seule différence, c'est que lui, il a choisi effectivement des figures emblématiques, des nabas pour le coup. Hein, ouais. Voilà. Sauf qu'ils avaient disparu. Et que moi, j'ai choisi de coller à la réalité et à la vérité du cinéma d'aujourd'hui. Puisque moi, tous mes personnages sont vivants et bien vivants, et ce sont toujours eux qui tiennent les rênes du cinéma français.
À ce propos.
Et d'ailleurs, oui, votre roman se déroule dans une période très précise, décembre 2010 à novembre 2011, une période, écrivez-vous, mouvementée, riche et féconde. En quoi cette période est-elle intéressante justement à fictionner?
C'était intéressant pour mettre en valeur les personnages que j'ai choisis. Parce que si je les ai choisis, d'abord c'est parce que c'est les maillons forts de l'industrie du cinéma. C'est des gens qui sont extrêmement discrets, voire secrets. Et pourtant c'est eux hein, qui sont aux manettes. C'est eux qui ont le pouvoir financier, le pouvoir de décision. C'est eux qui ont toutes les facettes du cinéma. Parce que faut savoir que quand même, ces grands pieds du cinéma, ils ont monté leur empire, chacun, sur les salles de cinéma, d'abord. C'est des grands circuits de salles. Quand on va chez Pathé et Gaumont, on va dans les salles de Jérôme Sédoux. Quand on va chez UGC, on va dans les salles de Guy Verrecchia. Et quand on va à MK2, c'est chez Marine Karmitz, etc. Autour de ça, ils ont monté leur groupe qui leur appartient toujours. Ils ont tous plus de 70 ans. Ils n'ont aucune envie de passer la main, globalement. Et donc, ce sont des personnages assez incroyables. Moi, je les ai côtoyés, évidemment, au cours de ces 25 ans au film français. Je trouve que c'est des personnages romanesques, finalement, même s'ils sont méconnus du grand public. On est loin des paillettes, on est loin des comédiens et tout ça. C'est des personnages vraiment romanesques parce que, d'abord, ils sont passionnants parce qu'ils sont passionnés, malgré leur discrétion. Je sais pas, Guy Verrecchia qui préside UGC est un personnage extrêmement discret, mais qui a fait la pluie et le beau temps sur les salles de cinéma pendant 40 ans. Et on le connaît pas. Et c'est un personnage extrêmement intelligent, brillant, avec un humour incroyable, mais qui fichait la trouille à tout le monde, faut bien le dire. Hein. Il y en a certains qui lui avaient donné ce nom de parrain du cinéma français.
Alexandra de Broca, un commentaire sur ce milieu que vous connaissez aussi par ailleurs, j'imagine.
Oui, je connais un petit peu, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai bien apprécié, moi, la télévision, où les choses étaient tout à fait différentes. Il y avait moins d'esbrouf, il y avait moins de... On travaillait plus dans l'économie et les producteurs de télévision n'avaient pas ce côté homme ou femme aussi puissant que vous décrivez.
Oui,
non, mais c'est vrai que le cinéma a quelque chose d'un peu particulier. C'est vrai que c'est d'abord parce qu'une production, un film, ça coûte cher, très cher. Donc il s'agit de beaucoup d'argent. Qu'il y a des égos absolument survoltés qui se déchaînent d'ailleurs au moment du Festival de Cannes, parce que c'est quand même et oui, c'est un peu différent de la télévision. La télévision a des rapports beaucoup plus courts au temps. Un film, ça se fait sur 2, 3, 4 ans, parfois plus, et puis boum, le coperet tombe le mercredi et on sait que c'est cuit ou que ça va être le succès, voilà. Donc c'est vraiment un rapport oui, au pouvoir, à l'argent, au succès, à l'ego, qui est bien plus puissant, oui.
Quand vous avez travaillé au film français, donc vous les avez côtoyés, quel a été celui qui vous aura le plus marqué? Parce qu'ici, on en a trois. Hein. Il y a Thomas Langman, il y a donc Guy Verracchia, et puis il y a aussi Vincent Maraval.
Maraval. Et Jérôme Sédou aussi, Gilles Jacob et Thierry Frémaux. Ils sont tous, je les ai tous choisis parce que eux sont tous, ont des parcours incroyables, des histoires incroyables et des caractères incroyables, bien trempés, etc.
Mais quelles peuvent être justement les relations professionnelles entre quelqu'un qui dirige le film français, qui est un journal qui se dirige justement vers la profession du cinéma, et les gros producteurs en fait? Quelle est la marge de manœuvre?
Elle est purement professionnelle d'une part, et c'est vrai que les marges de manœuvre, il faut avoir garder le pas de côté. C'est très compliqué de diriger un journal professionnel. Peut-être pas que dans le cinéma d'ailleurs. Il faut savoir quand même que ce dont on parle, ce sont nos abonnés et
vos annonceurs
et les annonceurs, et qu'on est entre, et c'est eux qui nous fournissent l'info en deux mots. Donc on est complètement dans un cercle fermé. Donc il faut arriver à faire du bon journalisme et pas tomber dans c'est une partition difficile, délicate, mais en même temps c'est passionnant.
Alors vous n'êtes pas tendre avec certains de ces producteurs, et vous présentez par exemple Vincent Maraval et vous l'associez au nom de sa société Wild Bunch, un hommage à la Horde sauvage de Sam Peckinpah, et vous dites que le nom de sa société dit beaucoup de sa façon d'envisager le métier.
C'est-à-dire, oui, c'est vrai, mais il s'en cache pas, il le revendique, hein, il l'assume complètement, et je pense que c'est bien, c'est un trublion, c'est quelqu'un qui a un talent fou. Vraiment, Vincent Maraval, et personne, je pense, dans le cinéma français peut dire le contraire. Il a un pif incroyable pour dégoter la production petite et qui va arriver à vendre au monde entier. C'est un pitcher
ça serait
fou.
Son fait d'armes, ce serait quoi pour vous?
Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'était La Marche de l'Empereur. Ça paraît idiot, parce que c'était un documentaire.
Vous en parlez d'ailleurs dans
le
roman.
Oui, j'en parle, parce que moi, je me souviens très bien, je l'ai interviewé à Cannes un soir, très tard, et parce qu'il devait me donner des infos complémentaires. Il avait une manière de pitcher en 3 minutes ce film. Il n'était pas fini de tourner. Il était en début de tournage et tout ça. Et on avait envie de se presser. On a envie de voir le film immédiatement. Et je trouve que c'est un garçon. Il a un accent du midi. Il ne dégaine pas possible. Il s'en fiche du qu'en dira-t-on. Mais c'est un énorme cinéphile. Et puis, c'est encore une fois, c'est un vendeur. Parce que son métier d'origine, c'est vendeur de films. C'est-à-dire qu'il prend des productions, il les vend au monde entier, aux distributeurs, aux télévisions. Et il est incroyable, quoi. C'est un personnage, moi, que je trouve. Et puis, il est très drôle. Il a une verve incroyable. Il aime la castagne intellectuelle. Bon, sans doute, vous vous souvenez de ce qu'il a fait. On appelait ça, dans le milieu du cinéma, Maraval Gate, quand il a décidé de faire sa tribune dans le monde en disant que les comédiens français étaient beaucoup trop payés et qu'il fragilisait le cinéma, etc. C'est une grande gueule. Moi, je le trouve vraiment intéressant. Il a des idées qui avancent. Il faut savoir que le milieu du cinéma français est assez conservateur, parce que comme il repose sur un modèle qui est assez génial, hein, avec le fonds de soutien, tout ça, il est très, faut surtout toucher à rien. La hiérarchie des médias, où on préserve la salle absolument, alors qu'on s'aperçoit que finalement les gens consomment plus le cinéma de la même manière. Hein, Mais non, on reste comme ça. On va protéger la salle pendant 4-5 mois, même si le film fait au bout de 3 semaines et dégagé des écrans. Ça va être comme ça. Voilà. Donc, je trouve que ce personnage-là, il est vraiment intéressant parce qu'il est ultra moderne.
Ce qui est intéressant aussi quand on lit le roman, c'est de voir toutes les stratégies géopolitiques pour mettre un film, par exemple, au Festival de Cannes. Et c'est ce que vous racontez autour de The Artist. Vous pouvez peut-être juste décrire la stratégie qui a été opérée pour que ce film puisse arriver à Cannes, en fait.
Je pense que la stratégie, d'ailleurs Thomas Langman en parle lui-même assez bien, a été celle quasiment du harcèlement et qui correspond vraiment à la personnalité de Thomas Langman.
Parce que Thierry Frémaux ne le prenait pas au téléphone.
Oui, et puis parce que non, c'est très compliqué pour Thierry Frémaux de sélectionner les films français. Déjà, c'est compliqué de composer sa sélection, sa compétition. Il y a 20 films, vous imaginez, sur toute la production mondiale. Il doit prendre la crème de la crème du cinéma mondial. c'est compliqué. Et quant au cinéma français, au film français, il doit avoir que 3 films à l'arrivée. Imaginez, à partir de décembre, novembre de l'année précédant le festival, ça y est, c'est parti. La pression, le machin, le chantage, la drague, tout. Il a droit à tout, Thierry Frémaux. Il faut qu'il résiste. Et c'est vrai qu'il est obligé de résister. Il peut pas dire oui en décembre à un film s'il va en voir 50 autres entre janvier et avril. C'est impossible. Sauf que Thomas, quand il est né dans la tête, eh ben, il l'a pas ailleurs. Et que dès très très tôt, il a commencé à vouloir. Il voulait que ce film aille à Cannes. Il voulait que ce film aille en compétition et nulle part ailleurs, parce qu'il sentait qu'il avait un film, il avait un peu le film de sa vie. Hein. Et donc, il ne l'a pas lâché. Quoi. Et donc, jusqu'à la conférence de presse où Thierry Frémaux a annoncé les films en compétition, The Artist n'était pas annoncé en compétition. Et donc, Thomas Langman a continué son harcèlement jusqu'au moment où, finalement, Thierry Frémaux l'a pris. Je pense qu'il l'a pris pas du tout pour céder à la pression de Thomas Langman, mais parce qu'il a bien compris qu'il se passait un truc autour de ce film. Et la meilleure preuve, c'est que ce film est allé jusqu'aux Oscars, il a emporté l'Oscar, et que Thomas Langman, c'est le seul producteur français à avoir eu l'Oscar du meilleur film.
En quoi, justement, Thomas Langman s'est-il construit autant avec que contre son père ?
Thomas, c'est un personnage très particulier dans le cinéma, c'est un peu le petit prince. Il est né dedans, il est tombé dedans. Donc, et puis, avec un père qui était alors, le tout-puissant du cinéma français, Claude Berry, c'était quelque chose, hein, c'est pas facile hein, de rentrer là-dedans. D'autant qu'après, son père l'a jamais vraiment aidé, bizarrement. C'est pas du tout le fils à papa, Thomas Langman. Tout le monde pensait que c'était le sale gosse, c'était facile pour lui. Non, son père ne l'a jamais aidé. Et donc, c'est quelqu'un qui est ultra combatif. Donc, il s'est battu contre tout ce qu'on lui reprochait, le fils de Claude Berry. Mais il s'est battu tout seul.
Dans votre livre, Zoé, donc, la réalisatrice attendait à rencontrer, je vous lis, de vrais cinéphiles, des uluberlus, des saltimbanques. Or, elle n'avait rencontré que des gens dénués de fantaisie, mi-financiers, mi-hommes de marketing. Quand vous avez commencé, il y a plus de 25 ans, au film français, c'est comme ça que vous avez perçu en fait, ce milieu où vous avez l'impression que c'est ainsi qu'il est devenu, Sophie Dagbert ?
Je pense que oui, je pense qu'il n'y a pas que le milieu du cinéma, d'ailleurs, qui évolue comme ça. Je trouve que trouve que ça a pas mal changé. Et déjà, peut-être que quand je suis arrivée au film français en 83-84, les gens disaient « Ah là là, avant, c'était beaucoup mieux. Oui. » hein, c'était plus flamboyant, etc. Mais franchement, je trouve que depuis quelques temps...
Vous dateriez de quelle période à peu près ?
Je ne sais pas. Depuis, on va dire 5-10 ans, je ne sais rien. Mais ça se passe partout, dans les groupes de presse. C'est la même chose. Je suis journée, donc... On a perdu un peu la singularité et l'amour des métiers. Tout le monde on est calibré. Les gens qui viennent des mêmes écoles, ils pourraient faire du cinéma comme faire autre chose. Je veux dire, travailler dans la grande distribution, je sais pas quoi. Et je trouve que ça a perdu, les fondus de cinéma, comme peut l'être effectivement Thomas Langman. Finalement, il n'y en a pas tant que ça maintenant. Ils font ce métier, c'est des hommes de marketing avant tout, c'est des financiers avant tout, on les a formés pour ça. Le cinéma derrière, la passion, je dirais la passion du cinéma, qui fait qu'on pense à ça nuit et jour, comme ces gens-là, qu'on ne vit que pour ça, je suis un peu sceptique sur la nouvelle génération. Voilà.
Comme tous nos invités, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici le vôtre.
Cette journée est entièrement réussie. On a réussi à saboter de manière pacifique ce 1er mai, cette journée qui est normalement dédiée au Front National. On a réussi à la saboter une première fois près de la statue de Jeanne d'Arc et ensuite au balcon de l'Opéra. Et évidemment, on va toujours se battre contre le Front National. Après, on utilise des symboles, on utilise l'ironie. C'est le propre du mouvement féminin. Mais qui a été violent aujourd'hui ? Nous, on n'a utilisé d'aucune violence, on a utilisé des symboles.
Qu'est-ce que vous diriez de ce son que vous avez choisi, Sophie Dagbert ?
Moi, il m'a marqué parce que je trouve ces filles, ces jeunes femmes, extrêmement courageuses. Mais vraiment. Et alors, bien sûr, elles sont provoques, bien sûr. Mais je trouve que c'est des filles qui se battent pour leurs idées. Et Dieu sait si je pense que leurs idées sont défendables et il faudrait peut-être un peu plus se battre. Ce sont des femmes, donc des jeunes femmes. Il faut y aller, hein, pour se battre contre des idées qui sont... bah oui, contre un fascisme rampant, etc. Et y aller du haut de ses 25 ans, mains et seins nus, quand on scoltine les gens du Front National, des grands balèzes à crâne rasé et qui sont, dont ils montrent toute la journée qu'ils sont capables des pires violences physiques et verbales. Moi, franchement, ces filles, je les trouve gonflées, je les trouve assez géniales et j'allais même dire, c'est pas très joli comme terme, mais plus couillues que tous ces gens-là, voilà.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, on se quitte en musique avec une session inédite ce soir, Benoît.
Oui, avec la chanteuse Jeanne Adède, qui était l'invitée du Printemps de Bourges la semaine dernière, où elle présentait son premier album, Be Sensational, d'apparaître le 1er juin prochain, programmé par notre réalisateur Thomas Beau, on l'avait reçu le 21 novembre dernier, juste avant son passage au Transmusical de Rennes, et on avait profité de son passage pour enregistrer un titre inédit. On écoute donc Jeanne Adède au chant et à la basse. Elle était accompagnée par Anne Passeo à la batterie et à l'électronique, et elle nous interprète Hit. C'était depuis le studio 108 de France Culture.
Come right here, fear no fear, look and tell me what you see. Has no name, has no brain, it's a bloody mystery. Can't be saved, can't be tamed, never really can be free. Selfish bait, fetish fate, still is a part of me. Let the sun get in your eyes, and the sun surround your thighs. The tide is coming to see, the tide is coming to see. See how fast it disappears, and how well I control my fear. Lose it all and dance with me, lose it all. With me, come right here, stop at me, turn the light up, now you see how I rave, misbehave, guns and blades inside of me, feisty flame, cherry fang, celebrate our victory, open gate, contemplate, first ambush me, then we'll see, lose what remains of your brain, lose what remains of your brain, lose what remains of your brain, lose what remains, lose what remains of your brain, lose what remains of your brain, lose what remains of your brain, lose what remains.
C'était Hit, la session musicale inédite de Jeanne Adède que nous avions enregistrée depuis le studio 108 le 21 novembre dernier. Alors pour voir Jeanne Adède en concert, vous pourrez vous rendre le 15 avril prochain au Festival Nuit Botanique de Bruxelles, le 20 à Amiens à la Lune aux Pirates ou encore à la Nouvelle Vague à Saint-Malo le 5 juin et le 11 juin au 104 à Paris. Son album sera disponible chez Naïve dès le 1er juin prochain.
Toutes les dates bien sûr sont sur le site de l'émission.
C'est pas la mort qui fait peur, ça peut être extrêmement mélancolique.
C'est le plus bel habit de la réalité.
Merci à nos invités, Alexandra de Broca, la rétrospective Philippe de Broca, c'était la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 1er juin. Je rappelle la sortie d'un coffret DVD sous le label TF1 Vidéo, puis un autre, les films avec Jean-Pierre Cassel, c'est chez Gaumont. Et puis je signale également la parution de votre deuxième roman, Monsieur mon amour, aux éditions Albin Michel. Sophie Dagbert, Nabab, c'est aux éditions Robert Laffont. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante.
Eh bien, c'est ce qu'on verra demain. Ce sera une émission farce et politique avec l'auteur et dessinateur de bande dessinée Mathieu Sapin et le romancier Yegor Gran. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Endoï et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfès, chronique Jean-Marc Lanane, à la prise de son Bruno Gagnard-Fontani et Juliette Delperrou, et à la réalisation Lise Combe.
Il est temps de nous quitter, vous êtes sur France Culture. Eh bien, c'est bien.